22 janvier 1983, père Philippe Rimond.
Qu'est-ce que c'est que le coup de foudre? Très bien. Quel est le rôle de l'imaginaire dans le coup de foudre? Peut-on rapprocher le coup de foudre avec l'inspiration de l'artiste? Voilà. C'est par mode d'expérience. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est que ce qu'on appelle, c'est cet accrochage au niveau affectif du bien qui se révèle à nous et qui subitement fait en nous jaillir un amour qui s'impose. C'est ça qu'on appellera le coup de foudre. Vous n'avez qu'à regarder dans l'écriture, puisque là je vous renvoie dans des livres qui sont bons, n'est-ce pas ? Regardez dans l'écriture la manière dont Jacob découvre Rachel. Et Dieu lui-même nous a révélé cette rencontre de Jacob et de Rachel. Tandis qu'il n'y a pas de coup de foudre entre Isaac et Rebecca. Et il ne nous est pas raconté la rencontre de Abraham et Sarah. C'est très curieux, ça. C'est intéressant pour ceux qui s'occupent un peu de la question du mariage dans l'écriture. Hein. Ce serait très intéressant de voir toutes les rencontres qui sont données dans l'écriture. On regarderait les rencontres au niveau du mariage, les rencontres au niveau de la virilité, au niveau de la consécration à Dieu. Et de voir de fait ces deux aspects qui sont différents. Donc, alors, un lien est-il à l'inspiration de l'artiste? Vous comprenez bien que ce n'est pas l'inspiration de l'artiste. D'un côté, c'est affectif, et de l'autre côté, c'est du côté de la connaissance. L'inspiration est avant tout du côté de la connaissance. Que des deux côtés, il y a une part imaginaire, c'est bien évident. Les artistes sont plus sujets à cela que d'autres, parce qu'ils ont une plus grande imagination. C'est plus fertile en imagination. Alors, parce que c'est plus fertile en imagination, il y aura du côté de l'inspiration et du côté affectif quelque chose qui risque d'éclater comme un dépassement. Parce qu'au fond, c'est comme une sorte, c'est triomphal, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui éclate, qui se manifeste avec force. C'est pas quelque chose qui se manifeste d'une façon très, très secondaire, non, c'est quelque chose qui se manifeste avec force. Bon, je n'insiste pas plus. Où faut-il situer la notion de vérité pratique dans l'analyse de l'acte moral? La vérité peut-elle qualifier l'amour? Oui, ça c'est très important. J'y reviendrai. Pourriez-vous préciser dans l'inspiration les différentes causalités? Expliciter, donc ça c'est plutôt du côté artistique. Alors, nous le verrons demain. Parce que ici c'est l'éthique. Hein. Il vaut mieux respecter les différents aspects successifs. Alors, la notion de vérité pratique dans l'analyse de l'acte moral, est-ce que ça ne reviendrait pas au fait de la conscience morale? Je n'ai pas développé la conscience morale, mais je compte la développer après. Et c'est au niveau de la conscience morale qu'on pourra parler d'une vérité pratique. Parce que la conscience morale essaie de voir si on est dans le vrai ou si on n'est pas dans le vrai. Si c'est normal d'aimer ce qu'on aime, si c'est normal de l'aimer de cette manière-là ou de ne pas l'aimer. Donc on est au niveau de la conscience, c'est-à-dire au niveau de la réflexion. Et c'est au niveau de la réflexion qu'apparaît le point de vue de la vérité. C'est au niveau de la conscience morale que vous avouez, que vous reconnaissez que votre choix est bon, que votre choix est vrai. Oui. C'est à ce niveau-là où vous constatez s'il y a. Donc c'est autour du choix. Alors autour du choix, nous allons voir plusieurs questions qui seront intéressantes pour essayer d'entrer dans la dimension de l'acte moral. Mais nous sommes encore au choix, nous ne sommes pas encore arrivés pleinement. Je vous ai dit donc la dernière fois que avant le choix, il y a le conseil. Le conseil, c'est la phase d'information à l'égard des moyens. Les moyens capables de me permettre d'atteindre la fin. Ces moyens, je ne les aime pas par eux-mêmes. Je les aime en fonction de la fin que je poursuis. Vous voyez donc que ce conseil n'a de sens que dans la mesure où il est porté par l'intention. Parce que tu as l'intention de faire cela, je te conseille de choisir ce moyen. C'est ce que nous dirons toujours quand nous donnerons un bon conseil à quelqu'un. Réfléchissez, la dernière fois vous allez nous donner un bon conseil à quelqu'un, dans une lettre, dans une conversation. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu disais. J'ai beaucoup réfléchi à cette intention profonde de ta vie. Eh bien, je te donne un conseil. Entre dans tel endroit. Donc, je te donne un conseil. Le moyen est bon. C'est ça. Tu veux former ton intelligence? Eh bien, oui. L'intention. Alors, on prend le moyen et on donne un conseil. Et pour que le conseil porte, je l'ai expérimenté. Je sais ce que c'est. Tandis que si je ne sais que par où dire, j'ai entendu dire que. Vous voyez, c'est toute la graduation qu'on donnera dans le point de vue du conseil. Mais le point de vue du conseil s'inscrit à l'intérieur de l'intention, d'une intention de vie. À l'intérieur d'une intention de vie, il y a cette possibilité, ça c'est très très curieux. Et nous posons le conseil que pour les moyens. Nous n'avons pas parlé de conseil pour l'intention de vie. Pourquoi ? Pourquoi, entre l'intention et le choix, il y a une possibilité du conseil ? Alors qu'il n'y a pas de conseil au niveau de l'intention. Entre l'amour et l'intention, bien entre cet amour premier, cet amour spirituel qui porte sur une personne comme mon bien, et l'intention, entre les deux, il n'y a pas de phase de conseil. On évite la velléité. Et quand on évite la velléité, cet amour spirituel se change en fin de vie qui porte sur le. En intention de vie qui porte sur la fin. Tandis que quand, de fait, je veux acquérir cette finalité, cette fin, je suis en vue d'une certaine efficacité, en vue d'une union efficiente, il y a la phase de conseil avant le choix. Et pour que le choix soit parfaitement bon, pour qu'il soit le plus objectif possible, comme on dira, je demande conseil. Et je ne demande conseil qu'aux personnes qui connaissent mon intention de vie. Je ne demanderai pas conseil à quelqu'un qui ne sait pas du tout mon intention. Mais quelqu'un qui connaît mon intention, je désire me consacrer au Seigneur. Je désire me marier. Les intentions de vie, ça porte sur le point de vue de la fin. Alors évidemment, les moyens sont différents. Et alors, comme les moyens sont différents, Je peux demander conseil. Alors pourquoi, ça c'est la grosse question et c'est intéressant, pourquoi y a-t-il conseil entre le passage de l'intention et le choix alors qu'il n'y a pas de conseil entre l'amour et l'intention? Qu'est-ce qui pourrait dire ça? C'est intéressant de voir ça, c'est toujours intéressant parce que ça fait mieux comprendre, vous voyez, c'est ça que je veux faire avec vous. On fait une analyse à l'intérieur de notre actif, de notre amour d'amitié, à l'intérieur de l'expérience de l'amour d'amitié, on fait une analyse pour essayer de comprendre, pour essayer de mieux comprendre toute la richesse de cette activité morale. Donc, c'est l'aspect de la subjectivité. Hein? L'aspect de la subjectivité de l'amour. L'amour regarde une personne. Et l'intention de vie saisit la même personne. Mais le choix est aussi quelque chose de très subjectif. C'est aussi quelque chose de très personnel. D'une certaine manière, le choix va caractériser et manifester encore plus ce qu'est la personne que l'intention de vie. C'est à l'égard des choix que se varient. Il y a des quantités de gens qui ont des vocations. Il y a beaucoup de moyens différents. Et la personne va se caractériser au niveau du choix. Alors la subjectivité. Je riposte. Hein? Oui. Oui, oui, mais n'oublions pas qu'il y a un acte de liberté entre deux. Et nous y reviendrons. Il y a un acte de liberté ici. J'accepte librement cette intention de vie. Donc, je pourrais demander conseil pour savoir si je dois l'accepter ou pas l'accepter. Quelle liberté? Je peux refuser. Je ne peux pas refuser ce premier amour. L'avons vu. Ce premier amour, il s'impose. Ce bien personnel s'impose. Mais cette intention de vie ne s'impose pas. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de fourrer ici un conseil au très particulier? Oui. Oui, c'est évident, mais un ami. Un ami qui me connaît parfaitement.
Il y a tant le premier amour que dans l'intention, il y a encore trop l'immanence, disons, du cœur.
Oui, oui, je vois, vous touchez l'immanence du cœur. Eh bien, c'est un peu vrai, ce sont des rapports. Les deux réponses sont justes. Mais il faut préciser, c'est les rapports entre l'intelligence et la volonté qui peuvent seuls faire comprendre la possibilité du conseil. Le conseil est un acte beaucoup plus intellectuel. Le conseil a ceci de tout à fait particulier, qu'il a une objectivité, c'est pour ça que c'est l'objectivité et la subjectivité, il a une objectivité beaucoup plus grande. Et donc, pourquoi? Parce que l'intelligence domine dans le conseil. L'information, c'est une phase pas du tout d'amour, mais c'est une phase intellectuelle. Il faut m'informer. Donnez-moi les documents pour que je puisse m'informer, pour que je puisse savoir. C'est l'intelligence qui cherche ça. Donc, c'est parce que dans le choix, amour et intelligence sont prex ex aequo. Ce que nous allons voir. Dans le choix, amour et intelligence sont parallèles. Que l'intelligence prend de plus en plus de place. Vous comprenez bien? Le premier amour, l'intelligence a très peu de place. L'intention de vie, l'intelligence a un peu plus de place.
Parce qu'il y a un ange. La fin qui revient.
Et l'intelligence a une place encore beaucoup plus grande dans le choix. Autrement dit, c'est que le passage de l'intention au choix de vie fait intervenir l'intelligence d'une façon beaucoup plus forte. Et alors, parce qu'elle fait intervenir l'intelligence d'une façon beaucoup plus grande, il y a possibilité de voir un autre. Vous comprenez, c'est l'intelligence qui me permet de recevoir le conseil d'un autre. L'amour, c'est toujours quelque chose de subjectif, c'est quelque chose de tout à fait personnel et d'unique. C'est mon cœur qui aime, c'est tout. Et par le fait même, il y a là quelque chose où l'intelligence n'intervient pas beaucoup. Tandis qu'au contraire, lorsqu'il s'agit du choix, l'intelligence intervient beaucoup plus. Et donc il y a une possibilité d'écouter. C'est l'intelligence, c'est grâce à l'intelligence que je peux m'ouvrir aux autres. L'amour ne m'ouvre pas aux autres au sens propre. J'aime le bien, ma fin. Mais quand il s'agit de choisir, puisque l'intelligence prend une place de plus en plus importante, alors il y a cette ouverture vis-à-vis de l'autre. Il y a cette ouverture au conseil, la possibilité. Vous voyez, alors c'est pour ça que c'est intéressant de bien saisir que le conseil, en effet, se situe là. Par une façon tout à fait exceptionnelle, on pourrait avoir un conseil là. Ça peut se faire. J'aime follement cette personne. Ça existe. Et tu es là justement au moment où je me demande si vraiment je dois adhérer à cet amour ou pas adhérer. Il y a une possibilité. Pourquoi ? Parce qu'il y a justement une hésitation. S'il n'y avait aucune hésitation entre cet amour et l'intention de vie, je ne pourrais absolument pas. Mais parce qu'il y a une hésitation, ça on le verra, il y a un acte de liberté. J'adhère librement dans cette intention de vie. Et parce qu'il y a liberté, l'intelligence intervient. Et parce que l'intelligence intervient, il y a une possibilité d'un conseil. Mais c'est très rare. Le conseil proprement dit, il est ici. Mais je dirais, il y a un conseil très intime, très personnel. Ça, il y a une ou deux personnes qui peuvent me demander ce conseil-là. Je ne le demanderai à personne d'autre. Jamais. Mais à quelqu'un qui me connaît très très bien, là, oui. Tandis qu'ici, c'est gros, pour les moyens, oui, c'est évident. Quels sont les moyens d'aller à Paris? Oui, on peut demander ça à un chef de gare. Il vous donne un bon conseil. Il vous donne un bon conseil. Il vous dit un horaire, des trains. Et c'est le conseil que vous demandez, l'information. Tandis qu'ici, chef de train, le bon chef de gare, c'est difficile. Ce chef de gare, j'ai un amour dans mon cœur. Est-ce que... Alors là, il me regarderait avec drôle. Et quelqu'un qui ne vous connaît pas, il vous dirait, vous êtes complètement fou. Qu'est-ce que vous avez? Mais oui, je demande... À qui voulez-vous que je demande conseil? Je ne peux pas demander conseil à personne. Vous voyez, il y a une possibilité, à cause de la liberté, l'intelligence intervient. Et parce que l'intelligence intervient plus, il y a une possibilité d'un conseil. Mais normalement, on n'en parle pas. C'est très curieux, on n'en parle pas, alors qu'il y a quand même quelque chose. Oui. Mais quelqu'un qui fait un choix de vie aussi pour se marier, il y a un modèle. Un modèle, je ne sais pas, Miss Idéal. Il y a un modèle, il peut y avoir un modèle.
Oui.
Oui. Alors là, faisons attention, nous sommes dans l'ordre surnaturel. Dans l'ordre surnaturel, le modèle intervient, et pas dans l'ordre naturel. Vous voyez ? Dans l'ordre surnaturel, je suis d'accord avec vous, il y a un modèle qui intervient, mais pas dans l'ordre naturel. Ça, c'est la question, on verra après, parce que c'est toute la question dans Maritain de la question de la valeur quand il parle de l'éthique. Regardez ça, très attentivement, ce serait très intéressant. Parce que Maritain a écrit sur le point de vue de la philosophie éthique, de la philosophie morale. Ça vaut la peine hein, de ceux qui peuvent lire la chose en parallèle, c'est intéressant parce qu'ils verraient l'indifférence, ça leur fait poser des questions. Maritain, à sa manière, je ne veux pas tout le temps avoir le parallélisme avec Maritain, mais c'est intéressant parce que Maritain, à sa manière, va poser de problématiques et va, vous voyez, il y a un petit reste de stoïcisme dans le modèle. Les stoïciens prennent un modèle. Nous prenons la cause finale. Et alors, le stoïcisme est assumable au plan chrétien, pas au plan philosophique. C'est très curieux. Au plan chrétien, c'est sûr qu'il y a un modèle. Il y a un modèle de vie. Regardez Saint Ignace, la vocation de Saint Ignace. C'est dit avec une véhémence extraordinaire. Hein, quand Saint Ignace raconte sa vocation. C'est très très beau. C'est très extraordinaire. Parce qu'alors, il montre vraiment qu'il a un modèle. Il regarde les saints. Il veut les assembler tous. C'est comme celui qui voulait construire la cathédrale modèle. Alors, il y avait la hauteur de la nef de Beauvais, il y avait le cœur de Reims, et ainsi de suite. Et on voulait construire la cathédrale modèle. Qui fasse la synthèse des cathédrales, vous voyez. Le modèle. L'inspiration, voilà, il crève. Parce que c'est le modèle qui l'emporte. Mais au plan surnaturel, il y a un modèle. Ça, c'est très vrai. Au plan surnaturel. Mais pas ici. Ici, j'en étais pas. Et je montrerai uniquement ce fait, c'est que je crois que le conseil intervient ici. Parce que, de fait, les moyens peuvent être plus ou moins objectifs ou plus ou moins finalisés. Et c'est très curieux que dans la phase d'information des moyens, on tient compte de ces deux choses-là. Et que le conseil, parce que l'intelligence intervient plus dans le choix, il y a une possibilité de cette phase du conseil d'information qui porte sur les moyens. Bon. Et le conseil porte sur les possibles. Les moyens possibles. On ne peut pas aller plus loin. On peut choisir ce moyen-là. Je crois qu'il serait bon. Vous voyez, sur le possible. Et le choix va faire que ce possible sera actué. C'est ce moyen que je choisis. C'est ce moyen que je choisis. Donc, il y a une actuation de ce possible qui, parce qu'il est choisi, n'est plus simplement impossible, il est remis en liaison avec la fin. Et c'est dans ce sens-là qu'il est actuel. Dans le choix, c'est ce que je fais. Le choix, je prends un moyen impossible et je l'actue. Et je le relie à la fin. Ou je le relie à moi-même, finalisé. Deux manières de l'actualiser. Peu importe. Il y a deux manières de l'actualiser, ça c'est sûr. Oui. C'est pour ça que j'ai dit, oui, mais faisons attention. La phase du conseil, au sens rigoureux, elle existe entre l'intention. Je ne demande pas à quelqu'un, quand je lui demande conseil, je ne lui demande pas de vérifier mon intention. Et si quelqu'un commence à dire, ça vaut pas, je vous demande conseil sur les moyens. Oui. Mais il peut y avoir cette ouverture du cœur profond au niveau de l'intention de vie. Et alors, à ce moment-là, il peut y avoir un certain conseil, mais très intime. C'est pas le même. C'est pas le même du tout. Vous voyez ? C'est deux niveaux tout à fait différents. Un niveau de fin, un niveau de moyen. Et je crois que ça, c'est très important de souligner les deux. On le verra mieux après. Hein. Simplement, chercher. Parce que, ordinairement, hein, d'une façon classique, le conseil est uniquement là. On ne le met jamais. Et je crois qu'on doit quand même le mettre là, mais en disant qu'il y a une possibilité, mais que c'est très rare. Oui.
On ne peut pas dire que le moyen regarde la forme, et donc on vient plus à l'intelligence, tandis que l'intention regarde la fin.
Non, le moyen ne regarde pas la forme.
La forme de l'action,
Oui, si vous voulez dire la modalité particulière, c'est non, c'est parce que le moyen, comme moyen, vous voyez, ils sont d'abord multiples, et c'est surtout parce que le choix lui-même implique une préférence. Dans le choix, l'intelligence intervient beaucoup plus. C'est à partir du choix qu'il faut considérer le conseil. C'est pas à partir du moyen. Vous voyez, c'est à partir du choix. Il faut comprendre que dans la phase du choix, le point de vue de l'intelligence étant présente, l'intelligence est curieuse. Et donc moi, j'ai fait mon enquête de choix. Quand je veux choisir quelque chose, nous faisons tout ça. Nous faisons notre petite enquête. Mais il arrive un moment où dire, ah mais, si je demandais un tel, il me donnera des renseignements que je ne peux pas avoir, moi. Oui, c'est l'intelligence qui est éveillée par... qui est éveillé dans cette recherche de curiosité pour savoir tous les moyens qui sont possibles. Et je pourrais augmenter cette phase d'information, donc du conseil, plus ou moins longuement, suivant le temps que j'ai. Ah, si j'avais plus de temps, j'écrirais à telle personne, me donnerait un très bon renseignement. Oui, mais je n'ai pas le temps, je suis obligé d'arrêter. On est dans le temps. Mais au fond, c'est la curiosité de l'intelligence éveillée dans la phase du choix. Et je crois que c'est ça qui rend raison de cette possibilité du conseil et qui montre que dès que l'intelligence intervient, le conseil est possible. Dès que l'intelligence intervient. Parce que c'est l'intelligence qui s'ouvre aux autres. Ce n'est pas l'amour. L'amour nous lie au bien, nous lie à la fin. Et on est comme lié à cette fin. Et alors lié à cette fin que nous voulons acquérir, nous sommes liés à cette fin que nous voulons acquérir par le point de vue de l'intention. Alors, à l'intérieur de cette intention, il y a possibilité des différents moyens. Alors, c'est évident, c'est le caractère possible du moyen. Je ne dirais pas la forme. Je dirais le caractère possible du moyen. Vous voyez, le caractère possible du moyen fait appel à l'intelligibilité du moyen. Et l'intelligibilité du moyen fait que le moyen est plus ou moins adapté à la fin, plus ou moins adapté au sujet. Et alors là, il y a la phase du conseil. Oui.
Je ne comprends pas tellement pourquoi l'intelligence est moins présente dans l'intention que...
Oui, parce que l'amour est plus présent. C'est une question de dosage. C'est ça qui m'intéresse.
Est-ce qu'on ne peut pas dire en fait, que c'est l'intelligence qui transforme l'amour en intention, donc l'intention
c'est l'intelligence qui permet à l'amour d'être intention. Ça, tout à fait d'accord. Mais l'intention est toute proche de cet amour premier et reste dans la ligne même. Oui. C'est le passage du bien à la fin que nous avions vu. Et à ce moment-là, pas tellement parlé de l'intelligence, on a parlé de l'intelligence, mais ça reste dominé par l'amour. Tandis qu'ici, l'intelligence, vous voyez, dans la proie précise, dans le choix, l'intelligence et l'amour sont de pair. De sorte que vous pouvez dire que c'est un acte d'appétit intellectuel, d'appétit impliquant le point de vue de l'intelligence, ou un acte d'intelligence impliquant le point de vue de l'appétit. Les deux sont intimement liés. Très fortement liés. Oui. C'est pour ça que c'est l'intelligence présente dans ce point de vue-là. Vous avez donc l'intelligence et la volonté qui sont présentes dans le choix. Et l'appétit qui sont présents dans le choix. Intelligence et volonté. Et alors tous les deux, vous voyez, puisqu'ils sont présents tous les deux dans le choix, les uns sont moyens, comme possible.
C'est une intelligence plus pratique dans le choix. Mais
vous voyez, la fin, je ne la regarde pas comme possible. Tandis que le moyen est possible. Je ne regarde jamais une fin comme possible. Et c'est là où vous voyez le caractère de l'intelligence. Parce que le point de vue possible, justement, c'est le point de vue de l'intelligibilité. La fin s'impose. Elle s'impose parce que j'aime ce bien. Et ça s'impose à moi. Et c'est pour ça que je ne mets pas de doute sur la qualité de la fin. Je regarde uniquement, j'y adhère ou j'y adhère pas. Oui.
Mais d'un côté, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'au niveau de l'intention, c'est plus l'intelligence comme telle, et au niveau du choix, c'est plus la raison?
Ah, si vous voulez mettre intelligence et raison de cette manière-là, qu'il y ait une délibération sur le choix, alors je suis d'accord, si vous voulez. Mais c'est quand même l'intelligence et la raison des deux côtés. C'est que l'intelligence intervient plus dans le choix que du côté de l'intention. C'est ça que je veux dire. Vous voyez, alors je veux bien que vous mettiez intelligence et raison des deux côtés. C'est sûr, quoique l'intelligence, c'est quand même une intelligence. c'est la raison, c'est sûr, c'est la raison parce qu'il y a une délibération. Alors je peux discuter, mais c'est quand même l'intelligence qui unit le moyen à la fin, qui fait ce lien entre les deux. Mais c'est pas le raisonnement purement et simplement dans le choix. C'est vrai qu'il y a une part plus de raison, ça c'est sûr. Bon, on voit comment la phase du conseil est nécessaire, elle apparaît comme possible, parce que justement, je recherche ces moyens, et que ces moyens sont multiples, et donc je dois pouvoir les saisir le mieux que je peux. Le choix va être donc, va porter sur la diversité des moyens, et sur cette actuation du moyen en vue de la fin. Alors, que représente ce choix? Vous voyez tout de suite que lorsqu'il s'agit de l'amour d'amitié, je suis en face d'un choix unique, parce que ce choix ne porte pas seulement sur un moyen, mais il porte sur l'ami. Je te choisis, toi. Quand il s'agit d'un moyen, ça porte sur quelque chose d'utile, quelque chose d'intéressant, quelque chose. Mais il n'a pas le même absolu. Il est évident qu'au niveau de l'amour, le choix apparaît à ce moment-là comme un dégradé. Mais le choix peut très bien prendre ce caractère très particulier de porter non plus seulement sur un moyen, mais de porter sur l'ami lui-même. Je choisis l'ami. L'ami est intention de vie et l'ami est objet de choix. Alors à ce moment-là, ça a l'air de tout faire casser à première vue. Puisque l'ami fait partie de l'amour d'amitié. L'ami, c'est le bien. L'ami, c'est la fin. L'ami, c'est le moyen. Quand je choisis un ami, cet ami, ah oui, c'est le choix. Je l'aime, c'est pour ça que je le choisis. Il est vraiment ma fin, c'est pour ça que je le choisis. Je le choisis. Et en le choisissant, j'exprime quelque chose de particulier. Et quelque chose de distinct, qui n'est pas uniquement l'intention et qui n'est pas seulement le bien. En le choisissant, je le choisis de préférence à tous les autres. Il y a une préférence qui est impliquée dans le choix, qui n'existe pas dans l'intention, qui n'existe pas dans l'amour premier. Vous voyez, là encore, la part de l'intelligence est beaucoup plus grande à cause de cette comparaison dans le choix. Je le choisis au-delà des autres, plus que les autres. Donc, il y a dans le choix quelque chose d'unique. Et alors, voyez ce fait, hein, et c'est là où ça devient très intéressant. Parce que je vois comment le choix peut porter sur un absolu, qui est ma fin, qui est mon bien. Et non pas seulement sur un moyen qui nécessairement est un amour moindre. Cette fameuse phrase d'Aristote, n'est-ce pas, que les moyens, on les aime en fonction de la fin. C'est vrai, j'aime un remède parce qu'on me dit que ce remède va me permettre de recouvrir la santé et que j'aime la santé. Alors je veux prendre ce remède. Si ce remède ne me conduisait pas à la santé, je ne le prendrais pas. Il est beaucoup trop amer. Alors je ne le prendrais pas du tout. C'est évident. Il y a des remèdes qu'on ne prend qu'en fonction de la faim. Ils ne sont bons qu'en fonction de la faim. C'est ce qui existe ordinairement pour les moyens. Les moyens sont relatifs à la fin et ne sont bons qu'en fonction de la fin. Mais quand il s'agit de l'ami, c'est un moyen, je le choisis. C'est plus un moyen, c'est une fin. Et je choisis ma fin. Et je la choisis. Et je le choisis vraiment. Et je peux demander conseil, ce qui est bon. Je peux demander conseil avant de choisir un ami, je peux demander conseil avant de choisir une fiancée ou un fiancé. Je peux demander conseil. Je peux demander conseil en disant est-ce que c'est bien ça, est-ce que c'est ça qu'il faut faire ou pas. Donc il y a là l'intervention, vous voyez, du choix au sens propre. je choisis. Et mon intelligence intervient pour voir le lien qui existe entre entre la qualité que j'ai à l'égard de cet ami et puis moi-même. Est-ce qu'il est bon qu'il devienne mon ami? Ou est-ce qu'il vaut mieux que ce soit un autre? Vous voyez, là, le choix... Alors, ce choix qui m'intéresse, parce que je crois que c'est le choix numéro un. Le choix n'est parfaitement lui-même, il est entièrement lui-même, que lorsqu'il porte sur la vie. Quand il porte sur des moyens, c'est très bien, c'est très bien, c'est des moyens. Mais ce sont des moyens, c'est quelque chose de relatif. Et alors à ce moment-là, le choix n'apparaît plus avec cette importance aussi grande, puisque le choix porte sur un moyen qui est relatif à quelque chose d'autre. Et donc l'intention de vie est bien plus importante. Tandis qu'ici, le choix va rejoindre l'intention de vie et va rejoindre l'amour. Et d'une certaine manière, grâce au choix, il pourra y avoir comme un nouvel amour. Le choix va se ressourcer par le point de vue du premier amour. Le premier amour n'est plus lointain, il est présent dans le choix. Et ceci, c'est possible. Pourquoi ? Parce que je suis en face d'un acte humain spirituel. Et parce que cet acte humain est spirituel, il n'a pas de juxtaposition. Dans un acte quantitatif, il y a une juxtaposition. Je dois abandonner un premier acte pour un second, pour un troisième. Première, deuxième et troisième classe. Hein. Je suis obligé de les abandonner successivement pour avoir le troisième. Et c'est vrai, le choix arrive en troisième lieu. Quand il s'agit justement de ce point de vue spirituel de la volonté, ce point de vue spirituel du choix rejoint le premier amour et par le fait même va permettre au premier amour d'atteindre toute sa ferveur. C'est dans le choix où le premier amour atteint toute sa ferveur. Et donc grâce au choix, ce premier amour pourra connaître une intensité beaucoup plus grande. C'est là où je vois le mieux comment l'intelligence est au service de l'amour. J'espère que vous comprenez cette chose-là, parce que je crois que c'est très important, ça. Ça fait saisir tout de suite. Il y a deux catégories de choix. Je suis obligé de prendre tout de suite deux catégories de choix. Il y a un choix qui porte de façon classique sur les moyens. C'est très bien, mais c'est secondaire, c'est relatif. N'insistons pas tellement sur ces moyens, c'est pas long, oui, il pourrait y en avoir d'autres, c'est tout. Tandis que lorsque le choix porte sur la vie, le choix rejoint l'absolu du premier amour et permet au premier amour de connaître une liberté, une ferveur, une générosité qu'il n'avait pas au point de départ. Et qu'il ne pouvait pas avoir au point de départ. Mais grâce à l'intelligence, il va connaître quelque chose de beaucoup plus grand. Et alors là, je crois qu'on est en face du choix au sens le plus fort. Oui.
Et qu'est-ce qui distingue de l'intention?
Ah oui, c'est que je le choisis. C'est justement, c'est que je le choisis. C'est plus seulement une intention. L'intention existe par rapport à la vie, c'est sûr.
Par rapport à l'ami.
Par rapport à l'ami, tout à fait. C'est à partir de l'acte d'amour d'amitié que nous avons étudié tous ces points-là. L'ami, c'est mon bien. L'ami, c'est ma fin. L'ami, c'est le moyen privilégié. C'est le moyen privilégié par où mon amour pourra se développer parfaitement et totalement. Ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, j'utilise l'ami, pas du tout. Ce n'est pas une utilisation d'ami. Ce n'est pas une domination de l'ami, non, pas du tout. C'est comprendre que l'amour que j'ai pour cette personne, il faut que cet amour connaisse parfaitement et totalement cette liberté particulière qui existe dans le choix. C'est très curieux, ça. Là, il y a quelque chose qui est très intéressant à préciser, si on voulait aller un peu plus loin, parce qu'il faut toujours aller un peu plus loin. Vous comprenez que l'ami a donc trois aspects sous lesquels je regarde. Je le regarde comme mon bien. Je le regarde comme ma femme. Je le regarde sous cette modalité particulière. Je ne dis pas comme moyen, hein, parce que ça ne va pas. Comme modalité particulière où l'ami devient celui que je préfère. Le préférer. Dans le harem, n'est-ce pas, il y a la favorite. La favorite, c'est le choix. C'est le modèle particulier. Il est aimé d'une manière unique. Et je le dis, il est aimé d'une manière unique. Et il y a dans cela, il y a une réduplication sur l'amour. C'est très curieux. Et c'est ce choix que je fais sur l'ami qui montre qu'il y a quelque chose de nouveau. C'est toujours l'ami. C'est toujours la même personne. Mais trois amours, trois modalités d'amour différentes. Et la ferveur, au sens rigoureux, elle est à ce niveau-là. Elle est au niveau de ce choix. Alors là, il y a ferveur. Il y a comme un amour. C'est pas seulement, il n'est pas seulement double, il est triple. Je pénètre plus avant dans le cœur de l'ami. Et au fond, c'est là où pénètre dans le cœur de l'ami. C'est là où il est choisi, il est aimé pour lui-même. Et alors, l'intelligence est beaucoup plus éveillée, beaucoup plus présente. Je crois que ça, c'est ce qui permet de comprendre comment le point de vue de l'amour revient sur lui-même, tout en se portant toujours sur la même personne, revient sur lui-même pour s'intensifier et connaître à ce moment-là une qualité très unique. S'impose à moi de cette manière telle que c'est vraiment l'ami. Et au fond, ce n'est que là où je le choisis vraiment comme ami. L'ami, c'est celui qui est choisi. Vous voyez ? C'est la même personne qui, à ce moment-là, prend. Et je lui donne un sort particulier. Parce que du fait même que je le choisis, je lui donne un sort particulier. Il devient l'ami. Je dis la favorite. Dans un autre contexte. Mais c'est la même chose, il s'agit de regarder la même réalité prise dans des points de vue différents pour exprimer justement une qualité dans l'ordre de l'amour qui ne peut s'exprimer comme celle, que de cette manière-là. Et donc, le choix va expliciter dans l'amour quelque chose de tout à fait spécial. Il faut donc ces trois dimensions de l'amour pour que l'amour soit parfaitement lui-même. Il faut ces trois dimensions, ce premier amour, cette intention et ce choix. Alors, nous avons là, une fois que vous avez compris ça, j'espère, vous avez compris ces trois moments de l'amour qui portent sur la même personne, alors qui peuvent se détacher, puisque c'est ce qui est particulier, c'est que le choix peut porter aussi sur des moyens, mais il peut porter aussi sur la personne. Et c'est quand il porte sur la personne que le choix prend toute son intensité. Et c'est parce qu'il prend toute son intensité que je dis c'est là où le choix est parfaitement lui-même. Le choix a une qualité très particulière. Alors, vous pouvez essayer maintenant, une fois qu'on a compris ça, vous pouvez essayer de comprendre maintenant ce que représente le rôle de l'intelligence dans le choix. Le rôle de l'intelligence dans l'intention. Pour essayer de faire apparaître le point de vue de la liberté. Je peux dire que la liberté est contemporaine du choix. Il ne peut pas y avoir de choix sans un choix libre. Il ne peut pas y avoir de choix sans liberté. C'est impossible. Alors, peut-il y avoir une intention sans liberté? Nous avons vu qu'il peut y avoir un amour sans liberté. L'amour n'est pas contemporain de la liberté. Mais est-ce que la morale est-elle contemporaine de la liberté? Partout où il y a morale, y a-t-il liberté? Je pose la question. C'est important. Partout où il y a liberté, il y a responsabilité. S'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de responsabilité. C'est ce qu'on voyait hier à propos de la morale stoïcienne. Je ne suis pas responsable, je ne suis pas capable de changer cette réalité, donc je ne suis pas responsable. Considéré comme de l'ordre physique. C'est en dehors du point de vue moral. Alors, la retombée dans le physique, parce qu'on considère que ce n'est pas moral. Alors, la question, c'est d'essayer de comprendre ce qu'est cette liberté au niveau du choix et ce que représente cette liberté au niveau de l'intention. Je crois que ce sont deux types de liberté qu'il ne faut absolument pas confondre. Mais ce sont deux types de liberté qui permettent de comprendre l'acte moral. Et si acte moral, je veux dire, et là nous voyons comment l'acte moral implique toujours la liberté. Il n'y a pas d'acte moral sans liberté, puisqu'il n'y a pas de responsabilité sans liberté. Alors regardons d'abord la liberté au niveau du choix. Puis on va s'aventurer au niveau de l'intention de vie, ce qui sera beaucoup plus difficile. La liberté au niveau de l'intention du choix. Au niveau de l'intention. Au niveau du choix. Non, je veux dire là. La liberté au niveau du choix, comme tel. Alors, que représente cette liberté? Je dis, cette liberté est là la liberté la plus manifeste, la plus visible. C'est pour ça qu'on dit ordinairement, la liberté, c'est être libre de choisir. Vous voyez, vous définissez la liberté par un type de liberté. Parce qu'il y a d'autres libertés. Il n'y a pas que la liberté de choix. Mais évidemment, c'est la liberté de choix qui est la plus manifeste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette liberté? C'est que, pour le choix, l'intelligence intervient en montrant le lien qui existe entre ce moyen et la fin. Entre la qualité de ce moyen et la fin que je poursuis. Et je montre que, parmi ces moyens, il y a du plus et du moins. Il y a des moyens plus proches de la fin, des moyens plus proches de moi-même. Donc il y a des moyens qui me semblent me permettre d'aller plus vite, des moyens qui me semblent d'aller d'une manière plus efficace. Il y a deux espèces de moyens. Il y a des moyens qui coûtent plus cher, il y a des moyens qui sont plus proches de moi. N'est-ce pas ? On le sait très bien. Bon, alors, il y a une diversité dans ces moyens.